du déplacement de l'aigle immobile au relief d'un rêve américain. D'un déplacement géographique, culturel, métaphorique, à la traversée des reliefs. Un espace donc, car ici, l'espace devient événement, mais aussi une mesure de temps, 10 heures, durant lesquelles une parole se déplaçant dans le questionnement du rapport à la langue, du rapport au biographique, du rapport à la nostalgie culturelle, du rapport à l'Europe, va tramer toutes les fictions. Fiction de la littérature, fiction de l'économique, fiction du politique. Une notion donc, celle de déplacement. Le déplacement met l'espace en jeu, s'indique comme traversée, tout d'abord de la langue, puisqu'il préside à la mise en place d'une littérature nationale, d'une volonté de littérature nationale. Ensuite, le déplacement s'indique comme traversée du poème, dont il exclut, consume le poétique, comme nous le verrons avec les objectivistes, pour lesquels le seul paramètre est celui d'une littéralité du réel. Au commencement, l'Europe place son miroir, et l'espace américain qui s'y rêve amorce une économie du manque, du jeu, de l'intervalle, comme le paramètre le plus propice à effectuer une topique des reliefs de la pensée, prise dans l'altérité et non plus dans l'identité. Donc la notion de déplacement, donc l'espace qui fait l'histoire de l'Amérique, qui fut la première fiction de l'Amérique. Charles Olson écrit « Le point d'appui de l'Amérique, ce sont les étendues moitié terre, moitié mer, un haut soleil, pareil à du métal et inflexible, comme le cercle de fer de l'horizon, et le travail d'un géant pour résoudre la quadrature du cercle. » Puis, cette phrase que Freud se dit en posant là-bas le pied, « Je leur apporterai la peste. » Interroger cette peste et celle que Pound associe à l'usure. Le mot devint chose, disons. Pourquoi ? Pourquoi le poème, après la langue, en même temps peut-être, fut-il ressenti comme local ? Pourquoi la langue devint-elle livre, c'est-à-dire ressentie comme globale, nécessairement ? Ainsi, écrire nous conduit à vivre d'une certaine façon, et parler nous chasse de notre propre parole. J'imagine ces 10 heures comme fonction de mise en scène, d'une stratification de l'épique. Quant à l'espace géographique, peut-il reconduire l'espace syntaxique, et comment ? Comment le soleil blanc du désert, l'astre bleu d'une forêt émerge-t-il d'une phrase ? Comment se réduit-il aux 4 côtés d'une page où la machine à écrire fait la preuve du lisible, solaire ? L'énergie répète la narration, qui répète la machine, qui répète l'espace. Tout paraît jouer depuis toujours parce que nous nous distribuons en même temps que les mots et les choses qui entament ici une mise en forme globale du concept de déplacement. J'imagine comme un gigantesque mobile cette phrase continue, fragmentaire, projetant par-delà le temps les reliefs de son récit dont le déplacement dans l'espace de la parole met à jour le fonctionnement même de la pensée, d'une pensée, son décentrement par rapport à l'ordre des choses et des mots. Le corps n'est pas naturel, la parole l'est-elle jamais ? Parler, est-ce prendre quelque chose pour objet du discours, s'inscrivant dans un espace de parenté avec les autres objets, et établissant avec eux des rapports d'éloignement, de ressemblance, de transformation. Du déplacement de l'aigle immobile au relief d'une terre qui se rêve vaine, de la disparition de l'Indien, ou bien de la transformation de l'Indien coiffé de l'aigle immobile. Donc, la question même absente est centre fictif, d'une parole dont l'enjeu se fait estimation des pratiques spécifiées dans l'objet de la sexualité, de l'argent, de la langue, enfin d'une schizophrénie utile et profitable.
Jörg Ortner. Une schizophrénie utile, profitable.
L'Amérique ou les États-Unis? Peut-être il faut commencer par la fin, qui est le début. Je veux dire par là les Indes occidentales en Orient ou les Indes orientales en Occident. Mes premières impressions qui m'ont lié d'une manière ou d'une autre à qu'est-ce qu'on appelle l'Amérique a commencé comment et de quelle manière. Tout cela se passe après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à l'âge entre 6 et 10 ans, entre 45 et des années 50. Les USA, cela n'était pas un pays, ce n'était pas un État où il y avait des gens qui habitaient. Cela était une très grande usine qui fabriquait des tas de choses. Il y avait toujours les trois caractères avec les trois points. USA. Alors, c'était pas un pays, cela n'était pas un continent, c'était quelque chose, une usine. L'Amérique a commencé à exister lorsque j'ai commencé avec mes camarades à jouer aux Indiens. C'était l'arc, la flèche, la forêt de plumes. La chose est curieuse, nous n'avons jamais joué au cowboy, probablement puisque nous gardons les vaches également. C'était l'Indien avant tout.
Octobre 1976.
Julia Kristeva. L'espace américain, l'espace universitaire, la question du féminisme.
Nous parlions tout à l'heure de littérature américaine. J'ai l'impression que la meilleure, peut-être la seule, après le passage à travers cette langue de Joyce et de Faulkner, c'est la littérature telle qu'elle la présente l'espace et le temps américain, la réalité de l'espace et du temps américain. Il suffit de passer dans les rues de New York, dans le métro, de traverser le pays, ne serait-ce que rapidement, pour se rendre compte que c'est un univers polylogique, polytopique et polytemporel. Il y a une histoire américaine, et c'est dans cette histoire officielle qu'on célèbre le bicentenaire, mais comme si cette histoire n'était qu'un courant superficiel. Et au-dessous coule une autre, où chacun véhicule son propre temps, son propre espace, sa propre race, sa couleur de peau, ses habitudes, ses vêtements, son discours. Et tout ceci donne une impression pluriel, qui est à la fois apocalyptique et carnavalesque. C'est pourquoi j'ai souvent l'hallucination, l'impression de vivre à New York dans un espace célinien. Non seulement parce que Céline en a parlé, mais parce qu'on a l'impression de rencontrer les personnages de Céline dans la rue, avec leur violence, avec leur drôlerie, avec leur psychédélisme, avec le fait qu'ils sont en avance ou en dehors du temps et de l'histoire. Je pensais à partir de là que l'univers stalinien a pu croiser l'univers fasciste, mais en faisant autre chose. Plutôt, on dirait qu'il a été le contrepoids à l'univers fasciste et à l'univers de la Deuxième Guerre. Parce que dans sa fiction, Céline a inventé une logique plurielle. Eh bien, j'ai l'impression que l'espace américain est à sa façon un contrepoids à l'institutionnalisation de l'ordre. Si le fascisme est l'inconscient institutionnalisé, l'inconscient ordonné, ce qui fait contrepoids au fascisme, c'est la pluralité d'espaces où des inconscients, avec la pulsion de mort et de violence que ça suppose, puissent être abréagis. Eh bien, dans l'espace américain, des latences agressives peuvent être abréagies de manière multiple. Et c'est ce qu'on appelle peut-être la force récupératrice du capitalisme. Parce que tout se fait, tout est possible, mais rien n'est vraiment transgressif. N'empêche que même si cette récupération a lieu, et elle est évidente, elle a son côté fascinant. Et son côté fascinant réside précisément dans cette force d'abréaction qui rend le fascisme impossible. À mon avis, l'espace américain est le plus tolérant, le plus ouvert, qui puisse être rencontré par un individu accidental, avec tout ce que ça suppose aussi comme danger d'anesthésie et d'insignifiance. Je crois que c'est là plutôt son danger et son horizon pénible. Mais avec le bénéfice aussi que ça représente sur le plan de la jouissance.
Rosemary Waldrop, qu'est-ce qu'une langue nationale? Ou bien, qu'est-ce qu'une littérature nationale?
Je vais commencer avec mon expérience personnelle, ce déplacement d'Allemagne aux États-Unis, qui a eu pour effet premier une censure absolue d'écriture. D'abord, il y a eu, j'avais écrit en allemand, en Allemagne, très jeune, et en venant aux États-Unis, je me trouvais dans l'impossibilité de continuer après un temps d'écrire en allemand, et je ne pouvais pas non plus écrire en anglais. Donc il y avait une césure. J'avais traduit d'abord des auteurs américains en allemand, mais même ça s'est arrêté après un temps, et j'ai trouvé qu'il me fallait vraiment conquérir ma nouvelle langue, et j'avais commencé par des traductions de l'allemand et un peu de français en anglais. À propos de ce déplacement d'Europe en Amérique, il y a un très beau texte de Olson qui est dans le Maximus Poems et qui s'appelle « Looking out for the first time through the eyes of Juan de la Cosa ». Regardant pour la première fois par les yeux de Juan de la Cosa, qui était le navigateur de Christophe Colomb. Et tout ce poème-là, c'est sur les explorateurs. Et c'est vraiment, ça décrit des vagues d'énergie qui vont de l'Europe à l'Amérique. Tous ces poussées d'énergie dans l'exploration. Mais il faut trouver l'Amérique pour que le monde soit ronde, pour que ça soit complet, pour qu'il y ait une totalité. Et c'est peut-être un peu dans mon cas aussi qu'il me fallait aller aux États-Unis pour retrouver ma propre écriture. Et il y a surtout peut-être une énergie de rupture très européenne là-dedans, mais il me fallait peut-être trouver l'espace américain.
André Duboucher.
Je lirai deux poèmes de Laura Riding. Earth, la terre. La terre n'est point d'effroi sans limite pour la terre. Partout elle a nom, nulle part. Si terre elle est pour toi, cela est ton secret. Ici font défaut registres du dehors, et tu peux l'écrire de même qu'elle apparaît. Comme elle apparaît, elle sera, sans mouvement apparent, dans l'apparente célérité. Ciel inentrevu ou vu seulement, espace sombre ou clair, espace non terrestre, et ce temps d'avant la terre, d'où en toi-même tu chemines, vers aujourd'hui parfait. Lieu presque qu'elle n'est pas, en puissance ici de toutes parts. N'est point d'effroi sans limite pour la terre. Simple est sa destination, être plus avant ce qu'elle est. Terre est ton cœur devenu ton esprit, pour peu qui batte ignorance de tout ce qu'il connaît. Comme kilomètre présent abroge l'homme compact, dont voué à désaveu, ils sont le passé. N'est point d'effroi sans limite pour la terre. Destruction vient sur l'effroi sans limite.
Alors ainsi, il y avait là, toujours, et toujours, jusqu'aux images que je vois aujourd'hui ou lorsque je vois un tableau de Rauschenberg ou de Jim Dine, toujours le double. Un nom auquel on ne peut pas se confier. Je crois toujours qu'on nomme une fois une chose, et ainsi ça s'appellera. Cette expérience, il y avait un nom qui était prononcé d'une telle manière et qui pourrait désigner autre chose, était une expérience très douloureuse. Je ne pouvais pas concevoir le nom mère ou maman ou papa. Et lorsque je disais maman ou papa, cela pouvait signifier complètement autre chose ou désigner une autre personne. C'est à cette époque-là, je pris une plus grande confiance, je crois, dans l'image. Je pouvais regarder des choses. C'était des choses pas nommées. Je pouvais le regarder un autre jour, la même chose. Ça parlait d'une manière différente, mais en tout cas, l'image était là. Ainsi, si sur cette histoire des divisions qui aboutit dans une sorte de schizophrénie rentable, cela nous verrons ultérieurement, on peut regarder cette histoire comme flashback and flashbed in history of the USA. Voilà, ici, un texte apocryphe, The Boston Tea Party. Ce texte apocryphe, voilà, protestation contre l'intention britannique de faire pénétrer du thé en Amérique à des prix supérieurs à ceux du thé hollandais. Des colons américains déguisés en indien, montèrent à bord des navires à Boston le 16 décembre 1773 et jetèrent la cargaison du thé dans les eaux du port. De cela, je vis une image, et cette image-là m'a expliqué un jour ma mère. Je comprenais plus rien. Il y avait des blancs qui se déguisaient en indiens. Je suis arrivé à la conclusion, eh bien, les indiens, ça n'existe pas. Puisque nous aussi, on s'est déguisé en indien pour faire notre jeu. Eh bien, tout simplement, tout était en ordre. Il y avait un nom qui désignait une chose. Il s'agissait toujours de blancs, des Englishmen, avec une plume et les autres sans plume.
Américain est réglé par un très curieux rapport entre la loi et sa transgression. La loi est de plus en plus abstraite, invisible et cantonnée dans des entités éthérées. Par exemple, le culte de la législation, le culte de la morale, tout ça très protestant et bien étudié par Weber, entre autres. Mais en même temps, cette présence de la loi est très concrète et c'est le dollar qui l'incarne. Seulement, par rapport à eux, le dollar d'une part, la moralité abstraite de l'autre qui tiennent le système, les transgressions sont permises. Seulement, tout en étant permises, elles sont impossibles. On a l'impression que toutes sortes de violences, toutes sortes de déviations, du fait qu'elles ont leur lieu, puisque l'espace est polytopique et prévoit un endroit pour tout et tous, il n'embraye pas sur le système. Le système reste intact. comme si le développement d'une rationalité économique a atteint son apogée en ceci, que toutes ces exceptions deviennent des éléments de la logique. C'est l'achèvement de l'esprit absolu, si vous voulez, ou de l'état hegélien à son terme, la fin de l'histoire ou l'éternisation de l'histoire occidentale, n'empêche que c'est un temps et espace ramassé qui donne l'impression de l'extrême liberté et de l'impuissance totale. D'où l'horizon qui me paraît le plus problématique se dessinant dans toute cette expérience, c'est l'horizon de l'impossible, de l'ennui et d'un blocage malgré la tolérance, la liberté et la réalisation des différences. En fait, c'est le problème de l'Occident satisfait. C'est l'achèvement d'une logique à la fois de discours et d'économie dont on ne voit pas le souffle ultérieur. Et à partir de là, l'alternative ne peut venir que d'ailleurs, si alternative il y a. D'ailleurs, je veux dire d'un tiers monde.
All things, toutes choses. Toutes choses s'éveillant à jouissance au soleil, toutes choses hormis une, toutes choses hors le soleil parce que soleil. Je m'en suis avisé, jeune fille. Aujourd'hui, je parle de façon moins équivoque et plus circonspecte cependant. Toute chose s'éveillant à jouissance au soleil, toute chose hormis une, toute chose hors le soleil parce que toute chose ce soleil furent, qui de plus en plus fut orgueil non capable d'être, sinon en arrière avisé par toute chose devenue une alors, une et une, jusqu'à longue précision mortelle. Toute chose s'éveillant à jouissance au soleil, toute chose se souvient de n'avoir pas été, lorsqu'éveil ne fut que soleil à venir, et sommeil ne fut que soleil à venir, lorsque vivre fut vivre uniquement, non mortel, tout instant. Entrepris et achevé en une seule impossibilité d'être soleil, ennemi de la mort, fier à l'excès, toute chose à jouissance, à considérer, orgueil non capable d'être, compacité que la mort n'entame pas, toute chose à jouissance, à le considérer, de cette mort où la vie est autant durable que minime elle est. Je m'en suis avisé. Comment qualifier la patience de ce long regard en arrière, ayant fixé la nature assez pour savoir quel est soleil qui fut, et soleil encore qui ne fut pas, par tant de nuits scindées de soi, de nuits et jours, et d'âme comme minime soleil fuit de vers rêve d'orgueil non capable d'être. Comment qualifier la patience? Je m'en suis avisé, l'âge venu, et longue précision mortelle, comme toutes choses vont se défaisant, de cette ensoleil, vivante gloire qui jamais, jamais ne fut, parce que soleil.